France Inter.
Merci beaucoup Mathilde Bouquerel, on vous retrouve à 11h. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, c'est le premier club des lectures qui font du bien de l'année 2026. Des livres qui font du bien, certes, mais pas mièvres du tout. Des livres qui agissent comme des baumes, des refuges pour traverser une actualité morose. Des livres à déguster par temps gris avec un bon plaid et une bonne tasse de thé ou de chocolat chaud. Nos prescripteurs ce matin, les journalistes Christy Lapelle-Edouel, Yolaine de Chano et avec le libraire Sylvain Gédrézac pour remplacer Thibaut de Saint-Maurice. Cette semaine, j'ai fait appel à Olivier Pouriol, philosophe et l'auteur d'un excellent livre cinéphilo disponible en poche. Quel est le programme de votre punchline philo tout à l'heure?
Alors, c'est une punchline de Diogène, ôte-toi de mon soleil.
Adressée à
Alexandre le Grand.
Bonjour Guimet Odissino.
Bonjour Ali, bonne année.
Bonne année Guimet Odissino, chef de rubrique cinéma Télérama, à peine remise des fêtes de Noël et du Nouvel An dans le Sud-Ouest, n'est-ce pas?
C'est ça, non, pas remise du tout. Qu'est-ce que vous pouvez...
Dans votre ordonnance de cinéthérapie cette semaine, il sera question de la Duchesse du Crime, pour reprendre le titre d'une biographie de Françoise Rivière.
Oui, moi je me suis dit qu'un bon crime pour digérer les fêtes, c'est chouette.
Avec Agatha Christy. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, l'émission qui donne du sens à votre vie quotidienne.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebbi.
Ce que j'ai appris, vous savez, il y a une méthode aux États-Unis, mais qui est appliquée à peu près partout, qui s'appelle le close reading. Bon, il faut donc regarder de très près le texte. Et je ne veux pas employer un mot à contre-emploi, mais disons le déconstruire, en tout cas l'analyser de façon à comprendre, non pas seulement le sens, mais la prolifération du sens, et quelquefois le sens implicite et le dégager du sens explicite. Ce sont des opérations analytiques qui, moi, me passionnent. Alors évidemment, quand on est une lectrice avertie, comme je peux l'être, comme beaucoup de gens, quand on lit beaucoup, etc., on repère tout de suite la virgule qui a été décalée, on repère tout de suite les assonances, etc. Mmh. Auprès de jeunes gens qui lisent essentiellement l'histoire, l'intrigue, il faut leur dire « attention, stop, qu'est-ce que c'est que la forme et qu'est-ce qu'elle nous dit ?» Et ça, c'est un apprentissage. Il faut lire lentement pour ça, et de près.
L'essayiste et professeur Laure Murat dans le Book Club sur France Culture en juin 2025. Bonjour Christy Lapelle-Edouel.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste, conférencière et autrice de ces livres qui nous font du bien, publiés chez Marabout. Bonjour Yolaine de Chano.
Bonjour.
Rédactrice en chef du Parisien Week-end. Bonjour Sylvain Gédrézac.
Bonjour Ali,
vous êtes
bonne
libraire,
année.
Bonne année à vous tous. Vous êtes libraire au Pavé du Canal, à Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines, et c'est sur le RERC.
C'est ça, si on veut à côté venir, de Versailles, c'est la grande librairie de 50 ans.
Tiens, justement, le livre, c'était un cadeau de choix pendant les fêtes. C'est toujours les romans de Freda McFadden, l'autrice célébrissime de La Femme de Ménage, qui se vendent le plus en ce moment?
Oui, on en vend tous les jours, il y a 4 tomes, on nous le demande tout le temps. Bon, les retours sont bons, les gens prennent du plaisir à découvrir Cette Femme de Ménage, tout va très bien, mais la deuxième star de l'année, c'est quand même Laurent Mauvignier et son Goncourt chez Minuit, La Maison Vide. J'en vends tous les jours, j'en ai vendu énormément. Les retours sont très bons. Ça donne envie aux gens de lire des gros pavés. Les gens sont contents, je suis très content aussi.
Tiens, Guimet Odissino, qu'avez-vous offert à vos grands-enfants? Le livre était un cadeau de choix.
Alors j'en ai offert plein, mais alors comme exemple je peux vous donner, j'étais très contente en fait de penser à offrir 24 heures dans la vie d'une femme de Stefan Zweig à mon fils.
Publié en 1927.
Oui, parce que je me suis dit que c'était intéressant d'offrir à un trentenaire l'histoire d'une femme montrée du doigt à une époque où disons que le féminisme n'était pas vraiment en cours. Et à ma fille, j'ai offert un Steinbeck. Parce qu'elle est obsédée par... Elle les a tous lus, il lui en manquait qu'un seul.
John Steinbeck.
John Steinbeck, il lui en manquait qu'un seul. Tortilla Flat. qu'elle a commencé à lire dans le train retour donc, du Sud-Ouest, et elle n'en peut plus, elle adore les personnages, cette histoire d'un type qui hérite de deux maisons et qui héberge des vagabonds comme lui, et en fait les vagabonds sont tous aussi mais bras cassés les uns que les autres, ça, c'est régalant, et en plus je ne l'ai pas lu, donc je lui pique dès qu'elle a fini.
Tortilla Flat de John Steinbeck, publié en 1935 et est disponible en folio. Tiens, un livre de poche que vous avez envie d'offrir autour de vous, ou que vous conseillez régulièrement, il est encore temps de se faire des petits cadeaux en ce début d'année 2026. Alors pour vous, Sylvain Gédrézac, c'est L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, disponible chez Folio. L'insoutenable légèreté de l'être, publié en 1984. Un livre dont on a envie de recopier des phrases entières.
Ah oui.
Ne pouvoir vivre qu'une vie, c'est comme ne pas la vivre du tout. On ne badine pas avec les métaphores. L'amour peut naître d'une sale métaphore. Il y a plein de choses comme ça, et pas que évidemment dans ce chef-d'œuvre de Milan Kundera.
Rien que le titre, c'est le titre le plus intrigant de la littérature, moi je trouve, en tout cas tout jeune, parce que je l'ai lu, j'étais ado, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un paradoxe.
Il y a longtemps.
Et de l'universel, il y a 2 ans et demi. Donc c'est Kundera qui est à la plume, vous l'avez dit, c'est un auteur tchèque, on le connaît bien, c'était un francophile, il a même appris le français pour écrire lui-même en français directement. D'ailleurs, La Lenteur, je vous le conseille, c'est magnifique. Ici, il raconte l'histoire de Thomas, c'était un jeune chirurgien, Thomas, très très porté sur l'amour et ses jeux. On est à Prague en 68. Il rencontre Teresa, qui devient sa compagne. Mais voilà, il ne peut pas s'empêcher de batifoler, notamment avec Sabina, qui est une libertine très sympathique. Le décor général, c'est le printemps de Prague en 68. Dubček arrive au pouvoir. Il souhaite installer un socialisme à visage un petit peu plus humain. Ça ne plaît pas du tout à Brejnev, qui envoie les chars.
C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est le cadre général. Donc c'est un livre percuté par l'histoire. Le héros, Thomas, est percuté par l'histoire. Il va être rétrogradé d'ailleurs de chirurgien à laveur de vitres, je crois. Mais L'insoutenable légèreté de l'être, c'est surtout une réflexion existentielle qui, moi, m'a paru absolument suffocante. J'étais ado, il y a 2 ans et demi, quand j'ai lu le roman.
Pourquoi ça vous a parlé, ado ?
Parce que c'était la légèreté face à la pesanteur. Et quand on est ado, on est à mi-chemin, comme ça, on cherche à quelle couleur on va donner à sa vie. C'est la légèreté, la liberté face au plaisir, la pesanteur en deux mots. Et la question existentielle, et on le comprend très vite, dès les premières pages du roman, quand Kundera nous invite à réfléchir avec Nietzsche, c'est comment prendre la vie avec légèreté, alors qu'elle peut être si difficile. Comment rester maître en sa demeure, alors que nos choix sont définitifs et si lourds de conséquences. Car Kundera nous le dit très vite, l'homme ne répète, et ça m'avait bluffé, l'homme ne répète pas, ou la femme, ne répète pas comme au théâtre, avant de monter sur la scène de sa vie, il vit directement. On ne peut pas recommencer. Ah oui. On est sans filet, on ne peut pas comparer à une vie antérieure, ou rectifier dans une vie antérieure.
Guillemette.
Oui, je suis complètement d'accord que c'est une lecture absolument fascinante pour l'adolescent ou l'adolescente. Après, même plus tard, enfin, il y a quelque chose de très fort dans cette notion. Ben, tout est dans le titre, effectivement, ouais. Qu'il n'y a que la légèreté ou la tentative absolue, fiévreuse de légèreté pour lutter contre le mal ambiant, pour lutter contre le totalitarisme, pour lutter contre l'absence de liberté qui nous entoure. Je pense qu'aujourd'hui, Kundera reste un auteur, pour ce qu'il a vécu et pour ce que son pays a vécu, reste un auteur essentiel à lire maintenant.
Et vous l'avez récemment offert.
Alors moi, je l'ai offert l'année dernière à Noël à mon fils.
Alors décidément,
et c'est une coïncidence.
Olivier Pourriol.
Et c'est un vrai roman. C'est un roman philosophique, mais c'est un roman qui tient en haleine avec une fin. Évidemment, je ne peux pas la divulgâcher, mais une fin, moi, qui m'a laissé sans voix.
Donc c'est L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera en folio. Alors Olivier Pourriol, pourquoi est-ce que vous aimez offrir Demande à la poussière de l'italo-américain John Fante? C'est disponible chez 10-18. John Fante, né en 1909 à Denver, mort à Los Angeles en 1983. Et Demande à la poussière met en scène le double de John Fante, Bandini, un loser magnifique.
Exactement, vous avez tout dit. Non, et Demande à la poussière, déjà le titre est formidable, et quand on aime les livres, on sait ce que ça veut dire. Parce que moi j'ai une bibliothèque, et c'est je crois l'endroit où il y a le plus de poussière. Dès que j'attrape un livre, je vois depuis combien de temps je ne l'ai pas touché. Mais Demande à la poussière, c'est un livre qu'on m'a offert il y a très longtemps, avant d'avoir écrit, pas lu évidemment, avant d'avoir écrit mes premiers livres. Et ça raconte en fait, oui, c'est l'histoire d'un loser, mais c'est pas juste l'histoire d'un loser, c'est l'histoire d'une conscience. C'est l'histoire de quelqu'un qui est torturé par les petits choix du quotidien, qui ne sait même pas comment survivre, hein, qui a pas de quoi s'acheter une bouteille de lait, et qui va, comme, je sais pas, comme un frère Karamazov, passer 10 pages à se demander s'il va avoir le courage de voler la bouteille de lait du voisin. Parce que vous savez, on est aux États-Unis, c'est un peu comme en Angleterre à l'époque, on dépose la bouteille de lait devant. Et il finit par en voler une. Il a trouvé le courage de devenir un voleur. Et être un voleur, quand on aime Dostoïevski, on sait qu'on va le payer. On va se taper 500 pages de Crime et Châtiment, juste tout seul dans sa tête, dans sa chambre. Et il s'aperçoit qu'il a volé du babeurre, c'est-à-dire un truc qui est impossible à boire, qui est dégueulasse. Et c'est tout comme ça. Moi, ce qui m'émeut le plus dans ce livre, c'est la vérité, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est la vérité de la solitude. Il y a zéro pause. Le style, c'est le style de quelqu'un. Ça me fait penser, bizarrement, à Cormac McCarthy. Il y a quelque chose d'un dépouillement, d'une forme de désespoir. Et il y a quand même quelque chose à partager quand on est seul et désespéré. Et ça s'appelle la littérature. Et c'est drôle aussi. C'est-à-dire, il y a la scène de rencontre avec... il est amoureux de la serveuse, évidemment, parce qu'il n'y a aucune femme qui lui parle. Et la rencontre avec cette serveuse qui le regarde pas, mais qui une splendeur d'une... C'est pas une beauté normale, vous voyez, c'est une espèce de Baudelaire contemporain. Il aime les beautés bizarres, il aime les situations étranges, et on le suit en fait, et on voit le monde avec ses yeux. Et moi, je trouve ça bouleversant. Quand j'offre ce livre, je l'offre rarement, j'offre qu'à des gens qui hochent la tête quand ils en entendent parler d'avance.
Comme Chrysilla Pellé-Douel.
Ah oui, moi j'adorissime John Fante, c'est un très très
j'adorissime, grand... c'est pas mal ça. J'adorissime.
C'est un joli néologisme. Très, très très grand écrivain américain, vraiment, à mes yeux, un des plus grands. Et en effet, ce que vient de dire Olivier Pourriol, c'est ce mélange, mais ça vous prend aux tripes. Il y a des pages où on pourrait pleurer. Et en même temps, et alors il est à la fois absolument bouleversant, et en même temps, mais il est hilarant, mais il y a des pages, mais c'est extraordinaire. Alors, bien sûr, en plus, le personnage du père est absolument génial, et il parle de sa famille, et en plus, il faut ajouter quand même que John Fante a été un alcoolique gravissime, qu'il en est mort, et que c'est, voilà, c'est le reflet de sa vie, mais c'est extraordinaire.
En fait, moi, je crois que quand j'ai lu Demande à la poussière, j'ai eu, vous savez, le choc. Enfin, ça. Évidemment qu'on aime énormément beaucoup de livres qu'on découvre. Mais là, le choc de découvrir quelqu'un, de découvrir effectivement une âme. Et moi, ça me fait aussi penser, étrangement, bon, ça c'est un peu mes manies, mais au cinéma, aux comédies noires italiennes. En fait, bon, il s'appelle pas Fante pour rien, et son héros s'appelle pas Bandini pour rien. Il y a quelque chose comme ça, de la comédie dramatique à l'italienne, où tout est à la fois désespéré, désespérant, et finalement, c'est ça qui crée, de cette noirceur et de cette loose intégrale, naît le burlesque et la tendresse.
Demande à la poussière de John Fante, c'est disponible en poche chez 10-18. Yoëlène de Chano, la dernière fois que vous êtes venue pour nous conseiller un poche, c'était un classique de la SF, L'homme qui est rétréci de Richard Matheson, et cette fois, c'est encore un classique de la SF, La nuit des temps de René Barjavel, à lire chez Pocket.
Oui, c'est vraiment de la science-fiction comme je l'aime. C'est un page-turner, La nuit des temps de Barjavel. Je ne l'avais pas lu depuis très très longtemps. Je l'ai relu parce que je l'ai offert à un adolescent. Je me souvenais de mes émois d'adolescente en le lisant. S'il fallait résumer très vite, on pourrait dire que c'est la découverte par des scientifiques d'un Adam et d'une Ève congelés. C'est un peu ça. On est dans l'Antarctique, il y a une bande de scientifiques français qui sont chargés de forer la glace, je pense qu'ils s'ennuient ferme. Ils découvrent tout d'un coup un œuf monumental, apparemment en or, mais c'est étrange, enfoui sous des centaines de mètres de glace. Ils appellent à l'aide la communauté internationale qui convoque les meilleurs spécialistes de la planète. Ensemble, donc, ils se mettent à creuser, ils tentent de pénétrer dans cet espace. À l'intérieur, ils voient deux corps magnifiques, celui d'un homme et celui d'une femme, d'une beauté ahurissante, inhumaine quasiment. Et après beaucoup d'hésitations, ils finiront par réveiller d'abord la jeune femme. Ce sera une des clés du livre. Elle va leur raconter sa civilisation vieille de 900 000 ans, une population au savoir immense, des avancées technologiques qui dépassent celles de la société mondiale des années 60-70, qui se pensait pourtant au-dessus de tout en termes de progrès, etc. Et pourquoi il se retrouve dans ce cercueil d'or ? Parce qu'une guerre fratricide a éclaté avec le pays voisin. En fait, Barjavel décrit très bien la soif de pouvoir et d'argent des hommes. Il raconte les faiblesses des organisations internationales. On est en 67 quand il l'écrit. On est encore dans l'espoir de maintenir une paix durable en Europe et dans le monde. Il montre très bien tous ses ressorts et comment tout d'un coup chacune des particularités des uns et des autres sort. Il raconte aussi les révoltes de la jeunesse alors même qu'il l'a écrit avant mai 68 et on a l'impression qu'il est reporter dans les rues de Paris quand il décrit. C'est hallucinant à relire en fait. Il parle aussi évidemment du progrès du savoir qui finalement ne protège pas toujours les nations. Donc c'est assez philosophique, puisque ça remet en cause une certaine idée du progrès. Et on le voit, je ne l'avais même pas perçu avant, il parle des ravages de la télé en direct. Puisque cette jeune femme est filmée 24 heures sur 24, projetée incroyable dans les télés du monde entier. C'est terriblement moderne, c'est magnifique à relire. Alors il y a une chose qui choque la lectrice d'aujourd'hui, c'est la misogynie des scientifiques, enfin de tout le monde d'ailleurs, pas que des scientifiques, des petites familles aussi devant leur poste de télé. Un scientifique qui se met à draguer ouvertement une jeune russe, et ça, ça passe plus. Le reste, ça passe crème.
La nuit des temps de René Barjavel, c'est à lire chez Pocket. Chrysilla Pelledouelle, vous avez choisi « Je sais pourquoi ». Chante l'oiseau en cage de l'américaine Maya Angelou, publiée au livre de poche. Maya Angelou, née en 1928 à Saint-Louis dans le Mississippi, est morte en 2014 à Winston-Salem. Maya Angelou, poétesse, romancière, dramaturge, professeure et bien sûr militante des droits civiques.
Et militante féministe, une féministe absolument convaincue et convaincante. Une femme extraordinaire, Maya Angelou. On parlait de John Fante, mais je crois que j'aime Maya Angelou absolument au même niveau et peut-être un niveau encore au-dessus. C'était une femme, mais d'abord d'une beauté. Enfin, moi, je la trouve d'une beauté. Regardez, je vous en supplie, allez regarder sur Internet la beauté de cette femme et la voix de Maya Angelou. Elle a une voix, mais vous ne pouvez pas ne pas être touché par la voix de Maya Angelou. Elle est extraordinaire. Et alors, une écrivaine fantastique. Elle a écrit 3 tomes de son autobiographie, dont le dernier qui est chanté « Swinguer, faire la brinque comme à Noël », déjà un titre absolument génial. Et dans ces 3 livres, elle raconte sa vie. Et je peux vous dire que sa vie, eh ben, c'est pas un truc très rigolo. En tout cas, son enfance, son adolescence avec son frère, elle a été abandonnée. Ils ont été abandonnés par leur mère par nécessité. Imaginez un peu, pas besoin de faire un détail sur ce que c'était que d'être noir dans le Mississippi. Et puis finalement, sa mère est devenue son modèle, parce que c'était une femme d'une volonté de faire. Et Maya a suivi les traces, elle est devenue chanteuse, elle a été stripteaseuse, elle a été comédienne, elle a fait du cinéma, je crois qu'elle a tout fait. Et en tant que poétesse, je crois vraiment que c'est l'une des plus grandes poétesses contemporaines. Il faut aller l'écouter vraiment, je me répète, mais sur Internet, aller l'écouter quand elle déclame ses poèmes. Non seulement elle les déclame, mais elle les incarne avec une élégance dans les gestes. Non, Maya, c'est... voilà, elle est universelle.
Les 3 tomes de l'autobiographie de Maya Angelou, c'est à lire au livre de poche. La sélection du club de lecture est à retrouver sur l'appli Radio France et sur le site de France Inter, à la page « Grand bien vous fasse ». Il est déjà l'heure de retrouver la cinéthérapie de Guillemette Odissino.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Et si ma vie était un film ?
Bonjour Ali, bonne année, vous avez passé de bonnes fêtes ?
Oui.
Ah, moi ça va super, car j'ai respecté mes traditions personnelles. J'ai offert à mon fils un pull qu'il ne portera jamais. J'ai pris les 5 kilos réglementaires entre le 24 au soir et le 28 à midi dans ma géniale famille du Lauragais.
Je suis rentrée avec l'habituelle luxation du poignet pour avoir, dans le train retour, tenté de caser ma valise de 2 tonnes de cadeaux dans l'espace réservé qui ressemblait au salon annuel de la bagagerie. Et j'ai pris froid le 31 en m'habillant comme une pépette au lieu de mettre une polaire. Donc c'est bon, je suis contente de moi, je peux commencer la nouvelle année. Alors c'est là, dans cette même maison du Lauragais, celle de mon oncle et ma tante, sur la place d'un sublime petit village, que je passais mes vacances enfant et que j'ai dévoré mes premiers Agatha Christie. Je me souviens encore très précisément, 45 ans plus tard, oh mon Dieu, merde, 45 ans, bon, des frissons ressentis à la lecture de « La mort n'est pas une fin », qui n'est pas très connue et que je vous conseille particulièrement. Le 12 janvier prochain, cela fera 50 ans que la reine du crime est morte, de mort naturelle, hein, après avoir assassiné 200 personnes au bas mot et vendu plus de 5 milliards de bouquins. Alors je vais vous conseiller 2 adaptations au cinéma de la chère Agatha qui vous apaiseront après le stress des fêtes. Dans le train aller ou le train retour avoué, vous avez eu des envies de meurtre quand votre voisin de siège a entamé joyeusement un sandwich pâté de sanglier Munster à 10h du mat, ou quand cette dame apparemment bien élevée a défoncé allègrement votre valise souple avec son énorme Samsonite rigide. Alors revoyez le crime de l'Orient Express. Un mort, beaucoup de suspects dans les wagons, et un passager qui n'était pas prévu.
Ah, monsieur le directeur, je vous attendais. Vous avez le 9, comme d'habitude. Merci, Pierre. Est-il exact que tout est complet ? C'est exact, monsieur. À croire que tout le monde a choisi de voyager ce soir.
En tout cas, il faut que vous me casiez, monsieur Poirot.
Monsieur Hercule Poirot ? Le célèbre détective ?
Précisément. Et en outre, c'est un de mes meilleurs amis.
Alors, ce n'est pas la version récente de Kenneth Branagh, Guillemette.
Non, absolument, Ali. Mais elle n'est pas mauvaise, hein. Mais franchement, je préfère la première. Celle merveilleusement vintage de Sidney Lumet, qui date de 1974, avec un casting international qui ressemble à un buffet des 13 desserts. Albert Finet, dans le rôle de Poirot, Lorraine Bacall, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Sean Connery, Jean-Pierre Cassel, Anthony Perkins, ou encore Vanessa Redgrave. Mais côté casting français cette fois, c'est pas mal non plus l'heure zéro de Pascal Thomas. Et on peut se jeter sur ce film où, dans un décor idéal d'un manoir de bord de mer, François Morel mène l'enquête dans une famille composée de Melville Poupeau, Chiara Mastroianni, Laura Smet et Daniel Darieux.
C'est ma madame.
Elle a été frappée de face. Le crime a dû être commis entre 22h et minuit.
Et c'est vraiment avec ce club qu'elle a été frappée.
Nous avons affaire à un gaucher.
Personne d'étranger à la maison n'a pu y entrer la nuit dernière.
Toutes les serrures sont intactes. Rien n'a été volé.
Ils sont combien logés ici ?
5, ils nous attendent en bas.
Bon, alors, hein, ce n'est pas votre famille, enfin, et surtout pas la mienne, puisqu'elle est richissime. Mais cette histoire de coups de club de golf dans la tronche vous fera relativiser votre agacement de Noël devant les disputes incessantes entre votre frère et votre belle-sœur, ou les sous-entendus sur l'héritage de grand-mère. L'heure zéro en récente mini-série américaine, c'est assez régalant aussi d'ailleurs. En fait, ce qu'il y a de bien avec Agatha, c'est qu'elle engendre souvent des films chorales, puisqu'il y a pléthore de suspects, et que même si vous avez lu le livre et que vous connaissez le coupable, en fait, c'est le casting qui tue.
Je rappelle l'ordonnance de cinéthérapie de Guillemette Odissino, le crime de l'Orient Express, mais dans la version de Sidney Lumet de 1974, et l'heure zéro de Pascal Thomas. La cinéthérapie de Guillemette Odissino a podcasté et a partagé sur l'appli Radio France. Et n'hésitez pas également à podcaster l'excellente émission de Sonia Fertchak, Un thé avec Agatha, 5 épisodes, pour mieux comprendre la vie et l'œuvre d'Agatha Christie. Et c'est sur l'appli Radio France. Dans un instant, la suite de notre club de lecture. On écoute Etta James, Tell Mama, une chanson sortie en 1967.
We'll be right back.
Guillemette, le réveillon est terminé. Hein,
ah
vous
bon
dansez sur du
étagère. Attendez, je redescends de la table, j'arrive.
Telle maman.
Allez, réveille.
Il sera une page dans un livre de 10 000 pages.
Grand bien vous fasse.
Que l'on mettra dans une bibliothèque qui aura 1 million de livres.
Pour retrouver cette page, ce ne sera pas commode.
Sur France Inter.
Grand bien vous fasse est le club des lectures qui font du bien en compagnie des journalistes Christine Lapelle-Edouel et Yolaine Dechaneau et avec le libraire Sylvain Gédrézac. Alors, Noé Brabant est allé promener son micro à la librairie Le Comptoir des Mots à Paris où officie notre camarade Théodore Dillerin.
J'aimerais commencer l'année avec beaucoup de livres, mais dont un en particulier, c'est le livre « Vivre » de Robert Badinter. Parce qu'il rappelle des choses vraiment très importantes et en espérant que dans le monde, on s'inspire de tout ce qu'il a apporté à l'humanité.
Le roman « Okavango » de Caryl Ferré, qui est un thriller, un polar, mais dans l'univers un peu des grandes réserves en Afrique du Sud. C'est un très bon roman pour commencer l'année parce que c'est facile à lire, donc on est assez content de commencer l'année avec un livre qu'on lit facilement et qui nous évade un petit peu, qui nous fait réfléchir à des mondes vraiment très, très loin du nôtre.
Magellan, Steven Zweig, parce que je serai sur place là-bas, sur le détroit du Magellan. Et voilà.
Alors je vais commencer avec le tome 34 du manga Berserk. C'est vraiment une histoire intéressante et un dessin très particulier. Et c'est probablement un des plus grands mangakas des dernières années. Il est décédé malheureusement.
Alors là, j'ai choisi Une révolution intérieure de Gloria Steinem. C'est sur l'estime de soi. Et voilà, c'est pour commencer l'année en réfléchissant un peu à comment est-ce qu'on se trouve et pour avoir une belle année 2026.
Propos recueillis par notre excellent stagiaire Noé Brabant. Alors, Sylvain Gédrézac, oui. Vous nous conseillez la saine lecture d'un auteur britannique que j'adore, décédé il y a exactement un an,
jour
le 1er janvier 2025. C'est David Lodge. Et vous avez choisi La chute du British Museum, disponible chez Rivage Poche. C'est un roman sorti en 1965 qui raconte les aventures d'un jeune thésard catholique hanté par la peur d'être père pour la 4e fois.
Oui, et alors, ce qui est frappant, c'est moi souvent à la librairie et de plus en plus, et c'est plutôt bon signe, on me demande des livres qui font rire. Parce que des livres qui font sourire, il y en a plein, mais des livres qui font rire. Donc depuis la fin août, je propose Fabrice Caro, tout le monde
évidemment
aime Fabrice Caro.
Ah, bien sûr.
Les derniers jours de l'apesanteur.
Fab Caro, bah, bien sûr.
Fab Caro. Mais alors, il faut toujours un plan oui. B. Je ne peux pas proposer qu'un seul livre. Donc,
si, il faut proposer que Fab Caro tout le temps.
Oui, mais c'est ce que je fais aussi. Mais il y a un moment, voilà. Et justement, je me suis rappelé qu'il y a quelques années, quand j'étais jeune, on y revient, j'avais adoré La chute du British Museum de David Lodge.
Vous n'étiez pas né en 1965?
Non, pas encore, non, il ne faut peut-être pas exagérer.
Mais non plus, hein.
Ça m'avait vraiment fait rire, je m'en rappelle. D'ailleurs, je me rappelle d'une scène, enfin, le héros du British Museum, c'est une espèce de Pierre Richard, à un carrefour de sa vie. Matinée de comment il s'appelle le monsieur, le Mr Bean.
Oui.
Il y a un côté un petit peu génial. Plus british. Donc c'est un jeune homme qui, par exemple, un matin, ne trouve pas de caleçon dans son tiroir à caleçon, qui va donc emprunter une culotte à sa femme. Et malheureusement, dans la journée, il va falloir qu'il se dévêtise. Je vous en dis pas plus, mais rien que ça, ça m'a fait mourir de rire. Et surtout, c'est le rythme de ce livre. Il y a une espèce de travelling au début du livre, où il est sur une espèce de scooter qui fonctionne pas bien, et il va traverser Londres comme ça, il va croiser les Beatles, parce que ça a été écrit en 65, mais ça a gardé vraiment tout son mordant. Il y a un côté un petit peu, pas poussiéreux, mais un petit peu patiné.
Vintage.
Vintage, mais qui est tout à fait agréable. Et je le conseille à la librairie, et franchement, j'ai de très très bons retours. On croise sur ce travelling la Reine d'Angleterre, les Beatles... Et voilà, cette histoire de la petite culotte, tout n'est pas résumé à ça, mais effectivement, l'intrigue principale, c'est on est en 65, il est vraiment très catholique avec sa femme, Vatican II est en train de passer, et voilà, ils utilisent la méthode naturelle, vous savez, pour la procréation.
Avec celle qui marche très bien.
Avec des graphiques, etc. Ouais. Est-ce que ça marche vraiment?
C'est la méthode Ogino.
Ogino, oui.
Voilà. Alors, est-ce que ça marche vraiment? Je vous laisse découvrir le livre.
Pour avoir des enfants, oui.
Lisez-le, il y a un côté foutraque qui est tout à fait réjouissant.
Christina?
Lodge est un génie du comique anglais. Enfin, on ne fait pas plus britannique dans l'humour, quoi.
Guillemette. Mais
en fait, ça me fait plaisir qu'on parle des livres qui font vraiment rire, éclater de rire. C'est vrai que c'est pas si courant.
Non.
Vous savez, quand vous êtes dans un train ou dans un métro, et tout d'un coup, vous éclatez de rire, les gens vous regardent. Le livre qui fait éclater de rire, ça, c'est un bienfait de l'humanité.
Et on a envie de partager avec les gens qui sont autour.
Et c'est très anglais.
La chute du British Museum de David Lodge, c'est disponible chez Rivage Poche. Alors, Yolaine de Chano, vous nous conseillez de lire une BD, Yi Yun de Cosé, publiée en octobre dernier aux éditions Le Lombard, et c'est à partir de 12 ans.
Oui, l'histoire se passe dans les années 90 en Suisse, on est au cœur des Alpes vaudoises, et alors la première page, elle nous en met plein la vue. On dévale une piste de ski avec le héros qui s'appelle Urs. Je ne sais pas si on dit Urs ou Ours, j'ai vérifié, c'est un prénom suisse connu. Et son copain Helmut, ce sont deux enfants du pays. Urs est fan de comics, et notamment des aventures inventées par l'auteur de la BD, des aventures de Miss Wu. C'est une pilote chinoise à l'œil couvert d'un bandeau qui pilonne l'envahisseur japonais. Voilà pour l'univers. Urs et son ami vivent dans les alpages, et ils attendent avec impatience l'arrivée des pensionnaires du Bentham College. C'est un établissement anglais qui organise chaque année des séjours pour ses élèves dans un chalet du coin. Et cette année, Urs tombe sur le sosie de son idole, Miss Wu. Évidemment.
Il tombe amoureux
d'elle.
Ah bah oui.
Ben voilà. Et il fait son possible pour approcher la jeune fille qui reste, elle, très distante. Les mois passent. Urs s'occupe en réalisant des petites scénettes grâce à la technique du papier découpé. Et oui, on apprend là que c'est une tradition dans les montagnes du Pays de Vaud. Et quand May, la mystérieuse jeune fille à l'œil blessé, revient en colonie de vacances, il s'étonne, il la trouve changée et fiancée. Bon, les années passent, Urs est devenu un artiste reconnu, il n'a pas oublié May jusqu'à ce que ses pas le mènent à Londres, puis à Taïwan, et là, il va découvrir son secret. Yi Yun, c'est une très belle histoire d'amour, on retrouve le trait et le style élégant, pur, dense, précis de Kosei, le dessinateur de BD suisse à 75 ans, il n'a pas son pareil pour croquer les paysages de montagne. On retrouve sa palette habituelle, des safrans, des bruns, des violets, il est coloriste aussi. C'est un virtuose pour croquer les rues, je vous conseille ces scènes de marché de Taïwan qui sont magnifiques. Ça se lit vraiment comme un roman en images, donc ceux qui sont un peu à l'extérieur du monde de la BD, il faut y aller parce qu'il y a une vraie histoire, un vrai scénario et on plonge dedans. Et puis toujours pour cet auteur, cette envie d'attaquer la politique de répression chinoise, là il dénonce celle de l'enfant unique. C'est un très très bel album et qui fait plus que proposer des images.
Yi Yun de Kosei, c'est publié aux éditions Le Lombard et c'est à partir de 12 ans. Alors Cristina, un écrivain argentino-canadien que vous affectionnez, Alberto Manguel, l'auteur d'une histoire de la lecture notamment, et vous avez craqué pour L'envers de la tapisserie, propos sur l'art de la traduction, et c'est publié chez Actes Sud.
Et d'ailleurs, au passage, traduit par Émilie Fernandez. Et d'ailleurs, j'ai oublié de citer les autres traducteurs, honte à moi. Bref, que nous dit Manguel, ce type génial? Eh bien, comme il a lui-même traduit beaucoup dans son existence, donc Alberto Manguel, il faut savoir que c'est un très grand connaisseur de la littérature mondiale, qu'il est polyglotte, qu'il a été secrétaire de Borges pendant sa jeunesse. Et c'est un type incroyable. Voilà.
Pourquoi vous avez adoré ce livre-là?
Alors celui-là, je l'ai adoré parce qu'il va complètement à contre-courant de tout ce qui est habituellement colporté sur la traduction. La traduction serait toujours une trahison. Et Manguel, il va à l'inverse de ça. Manguel dit non, ce n'est pas une trahison. Ça peut l'être, avec de mauvais traducteurs. Ce n'est pas une trahison, c'est une proposition. Une relecture est obligatoire, puisque évidemment ce n'est pas la même langue, et c'est parfois même une redécouverte de choses que l'auteur lui-même pouvait ne pas avoir repérées dans son œuvre propre. C'est cette vision qu'il a de la traduction, moi j'ai trouvé ça absolument passionnant, et il dit « traduire, c'est retracer la route empruntée par un premier explorateur ». La mer ne garde pas trace de ce voyage initial, il n'existe pas de carte en dehors de la chronique du voyageur et plus tard, en suivant les mots sur la page, le traducteur doit se guider en cartographiant le texte. Voilà, et ça rejoint un peu d'ailleurs les propos de Laure Murat que vous avez passé, hein, c'est-à-dire plonger vraiment, plonger au sens propre, se couler dans le texte et projeter autre chose forcément, qui n'est pas une trahison, mais qui est la découverte d'un autre pays. Et c'est, alors, ce sont des tout petits chapitres, hein. J'insiste parce qu'on pourrait se dire, oh là là, là là, de la critique littéraire. Non, c'est extraordinaire. Chaque chapitre est particulièrement bien écrit, beau et évidemment intelligent.
L'envers de la tapisserie, propos sur l'art de la traduction, c'est publié chez Actes Sud et c'est signé Alberto Manguel. Sylvain Gédrézac, l'un des livres que vous avez le plus aimé ces derniers mois, qui vous fait du bien, un bien fou, c'est La bonne mère de Mathilda Di Matteo, c'est publié à l'Iconoclaste.
Ah oui, parce que la rentrée littéraire qui commence fin août, bon voilà, on est à l'affût en tant que libraire, on veut un nouveau texte, on veut une nouvelle voix, on veut une nouvelle Françoise Sagan, ça y est, je l'ai prononcé. La bonne mère
et
cette année.
Et votre joke de l'émission.
Oui, vous êtes très fan, très fan.
Oui, 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 et j'en parle pas aujourd'hui de Françoise Sagan.
Non.
Je parle de Mathilda Di Matteo, qui est une jeune autrice qui est née à Marseille et qui raconte l'histoire d'une relation mère-fille entre une maman qui s'appelle Vérou, qui est une cagole. Alors, faut pas le prendre mal cagole. Hein. J'ai des amis marseillais qui utilisent ce mot-là encore.
Oh,
à l'époque, c'était peut-être un petit peu péjoratif.
Nice.
Donc, il y a la maman, il y a Vérou, cagole, elle parle fort, elle parle haut, elle est absolument géniale. Et sa fille Clara, qui lui ressemble pas du tout, et qui monte à Paris. Donc là, petit clash, elle monte à Paris, elle fait Sciences Po, elle gomme son accent. Donc petite dichotomie entre la maman et la fille, mais qui se retrouve évidemment autour de l'amour filial. Je peux vous dire qu'il y a, c'est un vrai roman avec une vraie histoire, je peux pas vous en dire plus, mais surtout, je voudrais parler de la narration, parce que l'idée est géniale, c'est que de chapitre en chapitre, on passe de Vérou à Clara par intermittence. Donc c'est pas la même langue, c'est pas le même point de vue. Et ça, vraiment, ça accroche bien le lecteur et la lectrice. C'est un livre absolument génial.
Guillemette ?
Écoutez, c'est un gag. Je vous jure que ce n'est pas moi qui ai fait le programme de l'émission. Je l'ai offert à ma cousine. À
c'est un livre qui parle à énormément de gens. Et je l'ai énormément conseillé. C'est mon livre préféré de la rentrée avec le Apana.
Yolène.
Je trouve ce livre formidable, ça raconte de façon très subtile finalement autour de la caricature de cette mère cagole dont les seins dépassent d'en haut en léopard et dont les talons sont trop hauts et claquent sur le bitume face à sa fille, un télo beaucoup plus resserré, etc. Et ça décrit ces rapports très subtils entre cette mère et cette fille qui essaye de se détacher de sa mère. C'est en effet une voix très jeune, très moderne, une écriture qui change vraiment. Ça a été pour moi aussi une découverte de la rentrée littéraire. Je vous le conseille, c'est plein du soleil du sud, c'est plein aussi de sa violence, de son âpreté parfois. Et c'est très très beau et fin sur la relation mère-fille, je trouve.
La bonne mère de Mathilda Di Matteo, c'est publié à l'Iconoclaste. Alors, Yolène de Chanot, qu'est-ce qui vous a plu en lisant La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob de Jean-Philippe Daguerre? C'est publié chez Albin Michel. Ça sort ces jours-ci. Rabbi Jacob, les aventures de Rabbi Jacob, c'est bien sûr le célèbre film de Gérard Houry, sorti en 1973.
En fait, ce livre m'a étonnée. Il sort le 8 janvier. Je l'ai lu en me disant, préparons donc sérieusement la rentrée littéraire d'hiver, celle de janvier. Je me suis plongée dedans et ben ça m'a fait du bien parce que c'est passé tout seul alors que le sujet est plutôt glaçant. On ne rigole pas avec les religions, surtout en ce moment. Cette phrase a été prononcée par Danielle Craven, épouse de Georges Craven, le 23 avril 1972, quand il lui annonce qu'il va être l'agent du film Rabbi Jacob. Tout cela est vrai, reconstitué sans doute, mais vrai. Danielle estime que son mari cautionne le conflit israélo-palestinien. Je vous rappelle qu'on est au début des années 70, pour vous resituer un contexte un peu brûlant. En s'occupant de la promotion de ce film, donc, il irait dans le sens de la violence qui surgit. Elle cherche du soutien du côté de Louis de Funès, qui au départ, il faut bien le dire, n'est pas très chaud pour s'engager dans ce projet, dans lequel on lui fait jouer un antisémite déguisé en rabbin mêlé à des terroristes arabes.
Un peu raciste aussi.
Vaguement raciste, c'est assumé en plus. Louis de Funès, bon, pas très confort avec cette idée. Danielle, bien décidé à faire échouer le projet, s'en ouvre avec véhémence au ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, c'est un ami de son époux, il vient dîner chez eux, et elle défend l'existence d'un État pour les Palestiniens. Si Danielle a pris fait et cause pour eux, alors qu'elle s'était convertie au judaïsme en épousant Georges Craven, c'est parce que la nounou de ses enfants, Jamila, a dû fuir Jérusalem en laissant les siens sur place. Alors l'auteur Jean-Philippe Daguerre adopte le point de vue de divers protagonistes. Dans chaque chapitre, on entend parler l'un ou l'autre. Daniel Craven, bien sûr, Georges, son mari, Gérard Houry, Louis de Funès et sa femme Jeanne, ou encore Françoise Dolto qu'on voit débarquer. Pour remonter le fil de ce fait divers glaçant et réel dont je n'avais jamais entendu parler, l'histoire de cet idéaliste qui ira jusqu'à détourner un avion pour empêcher la sortie d'un film, du film Rabbi Jacob, qui fera rire la France entière. Il dépeint cette femme charismatique qui bascule dans la tristesse et la colère. Jean-Philippe Daguerre, au départ, il est dramaturge et comédien. Il a été auréolé de plusieurs Molières. C'est son premier roman. Il va être adapté en pièce, mis en scène au théâtre du Petit Montparnasse à partir du 10 janvier. Et je pense que ça marche très bien au théâtre.
Guillemette.
Oui. Alors, j'ai pas lu le livre, mais je vais me jeter dessus parce qu'effectivement, cet événement, ce détournement d'avion par cette femme qui en même temps était liée de près à ce film dont qu'on a donné comme exemple, comme un possible film de réconciliation, qu'on pouvait rire de tout. Aujourd'hui, on ne peut plus évidemment plus rire de rien. Enfin, en fait, c'est fou comme cette histoire devient une espèce de nœud comme ça gordien de ce qui se passe à l'heure actuelle. Et donc c'est vraiment, enfin je trouve ça passionnant, et on se dit que il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, j'arrive même plus à le dater, on est exactement au cœur d'une problématique sur l'humour et la politique, et à quel point tout ça est explosif.
Ça s'appelle La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob, de Jean-Philippe Daguerre, et c'est publié chez Albin Michel. Un mot rapide, Christina, vous nous conseillez la lecture de Keigo Higashino, un japonais qui a publié Le gardien du camphrier. C'est un roman traduit du japonais par Lisa Tetio, et c'est publié chez Actes Sud.
Voilà, et c'est un japonais, un romancier japonais très célèbre au Japon, qui a eu plein de prix. L'histoire est toute simple, il s'agit d'un jeune homme un peu à la marge, tout ça, et par une suite d'événements, il est sorti de prison, parce qu'il est en prison pour un petit délit, par quelqu'un, mais il ne sait pas qui. Voilà, il va découvrir que cette personne, en réalité, est une femme de sa famille, et qui lui propose, pour se racheter en quelque sorte, de devenir gardien d'un parc où se trouve un camphrier qui est un très bel arbre, et ce camphrier a le pouvoir d'exaucer les vœux. Alors bien entendu, une quantité de personnages vont défiler, une quantité d'histoires aussi, toutes différentes les unes des autres. C'est charmant, c'est évidemment très très bien écrit, et il y a une espèce de légèreté dont on parlait tout à l'heure, qui est parfaite pour démarrer l'année.
Le gardien du camphrier de Keigo Higashino, c'est publié chez Actes Sud et ça sort le 7 janvier. Sylvain Gédrézac, un mot sur l'œuvre de Vincent Almendros que vous avez envie de conseiller aux éditions de Minuit.
Ah oui, j'ai envie que les gens le connaissent. Vincent Almendros, c'est un auteur qui a une quarantaine d'années, il publie chez Minuit des livres courts, 130 pages. Il y a L'été, il y a Fermouche et Sous la menace. Je vous conseille vraiment de les lire. C'est sec, c'est à l'os, c'est un style direct, minimaliste, 130 pages. On est entre Chabrol et Hitchcock. Ah. C'est absolument délicieux, allez-y.
Un été, Fermouche, Sous la menace, de Vincent Almendros aux éditions de Minuit. Vous retrouvez évidemment toute la sélection du club de lecture sur l'appli Radio France et sur le site de France Inter à la page Grand Bain Vous Fasse. Dans un instant, la punchline philo d'Olivier Pourriol, les phrases les plus célèbres de l'histoire de la pensée et qui peuvent nous aider à vivre cette semaine. Ôte-toi de mon soleil, de Diogène. On écoute Sam Sauvage, La fin du monde.
On sera des héros. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde. C'est pas moi qui le dis, à nous les tragédies. T'entends cette mélodie, regarde devant, au-dessus des incendies, le ciel qui nous sourit. Et tous ensemble on crie, et là dans le club, on rêve d'un monde nouveau. Saoulé dans le pain, sera des héros. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et bien que ce soit la fin du monde, j'entends le vent du nouveau monde souffler avec moi pour la fin du monde. La fin du monde. Ça nous empêche pas danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde.
Sam Sauvage interprétait La fin du monde.
Philosopher, France Inter. Comme le dit Descartes, c'est d'abord douter de tout.
Grand bien vous fasse.
Et donc douter du doute, et donc douter que philosopher, ce soit douter de tout.
Alors Olivier Pourriol, dans votre punchline philo, vous avez choisi l'une des phrases les plus célèbres de l'histoire de la pensée, « Ôte-toi de mon soleil » de Diogène.
Et c'est peut-être la meilleure punchline de toute l'histoire de la philosophie, balancée par le meilleur puncher de tous les temps, Diogène, Alexandre le Grand. Alors qui était Diogène ? Un philosophe cynique, né à Sinope en 413 avant Jésus-Christ, 14 ans après la mort de Socrate. Alors cynique n'a pas le sens moderne de désabusé ou sans scrupule qu'on lui connaît. Au contraire, Diogène était un idéaliste, un ascète. Cynique, ça vient du grec kunos, qui signifie chien. L'école cynique a été créée à Athènes, dans un gymnase qui s'appelait le Cynosarge, par un dénommé Antisthène, et elle a donc pris le nom du lieu. Mais quand Diogène est devenu l'élève d'Antisthène, il a décidé de mener une vie de chien, littéralement, et de renoncer à tous ses biens, à part un manteau, le même été comme hiver, une besace, un bâton et une écuelle.
Et il vivait dans un tonneau.
Ou plutôt dans une jarre, car les tonneaux n'existaient pas encore, Ali. Une vie donc dure, d'ascète, mais pas une vie d'ermite, puisqu'il vivait dans la cité comme un chien, à proximité des hommes, pour veiller sur eux et les mordre si besoin. Lui-même se considérait comme un médecin qui a pour devoir d'aller là où il y a le plus de malade. Il le disait comme ça. La légende lui attribue aussi une lanterne qu'il promenait allumée en plein jour en proclamant « Je cherche un homme ». Sous-entendu, personne autour de moi n'est digne d'être appelé ainsi. À l'inverse de Platon, qui était son contemporain, il ne reste de lui aucun écrit, mais beaucoup d'anecdotes. Alors en voici quelques-unes sur sa rivalité légendaire avec Platon, par exemple. Un jour, ils se croisent lors d'un défilé de chevaux richement harnachés. Platon est connu pour être très riche. Platon salue Diogène. « Bonjour chien ». Diogène lui répond « Bonjour cheval ». Platon, donc très riche, était connu pour la splendeur de ses manteaux. Diogène l'apostrophe « Platon, je vois ton orgueil dans les plis de ton manteau ». Platon lui répond « Et moi, je vois le tien à travers les trous de ton manteau ». Donc pas mal en punchline aussi, Platon. Et Diogène conclut en parlant de Platon, ça c'est très méchant, « De quelle utilité est pour nous un homme qui, bien que pratiquant la philosophie depuis si longtemps, n'a jamais dérangé personne ». On comprend le reproche. Socrate est mort d'avoir dérangé beaucoup de monde. Platon n'a pas eu cette imprudence. Il appelait Diogène Socrate devenu fou ou Socrate furieux, selon les traductions, Socrate possédé. Et c'était à la fois un reproche et un compliment, parce que si Diogène était un peu dingue, c'était quand même dans la droite ligne de Socrate. Et en effet, il n'y allait pas de main morte. Par exemple, il se masturbait en public. C'était évidemment scandaleux.
Et en quoi était-ce philosophique ?
Ben, la partie philosophique vient après, quand il disait « Ah, si seulement il suffisait également de se frotter le ventre pour ne plus avoir faim ». Vous voyez, c'est profond. Bon. Un jour, c'est une autre anecdote, après avoir vu un enfant boire à la fontaine dans sa main, il a jeté son écuelle, parce qu'au fond, c'était un luxe. Donc Diogène, vous voyez, c'était ce genre d'homme qui vivait la philosophie et qui enseignait par l'exemple. Il est fait prisonnier par des pirates, parce qu'il avait pris un bateau, il est vendu comme esclave. Le marchand lui demande « Que sais-tu faire ?» le marchand d'esclaves. Il répond « Je sais gouverner les hommes. Vends-moi à quelqu'un qui a besoin d'un maître. » Parmi les acheteurs, il y a un certain Xéniade qui avait de l'humour et qui était amateur de philosophie. Il l'achète, il en fait le précepteur de ses enfants. Je vous vois frémir, il n'y a pas de relance, mais je vous vois. Qui confierait l'éducation de ses enfants à un homme pareil ? Mais le résultat fut pourtant si probant que son maître, pour le remercier, finit par l'affranchir. Et c'est donc en homme libre que Diogène, âgé de 77 ans, prend le soleil à Corinthe. C'est le début de notre anecdote. On est en 336 avant Jésus-Christ. Alexandre, qui vient de devenir roi de Macédoine à 20 ans, il a été l'élève d'Aristote. Il se pique de philosophie. Il veut voir le fameux Diogène. Et donc, il le dérange et il le trouve en train de bronzer. Constatant que son dénuement est bien réel, Alexandre joue le bienfaiteur. Diogène, de quoi as-tu besoin ? Et Diogène lui répond « ôte-toi de mon soleil ». Alors Plutarque, qui rapporte l'anecdote, écrit exactement « ôte-toi un peu de mon soleil ». Aujourd'hui, on dirait « bouge ».
Casse-toi !
Bouge de là, dégage ! Personne n'ose parler ainsi à Alexandre. Comment va-t-il réagir ? Il ne dit rien. Il s'en va. Sur le chemin du retour, son entourage se moque de ce vieux fou. Alexandre, lui, ne rit pas et il dit « si je n'étais pas Alexandre, j'aimerais être Diogène. Ôte-toi de mon soleil, donc c'est cette punchline, si elle a traversé les siècles, c'est parce qu'elle était balancée par l'homme le plus démuni à l'homme le plus puissant de l'univers. Une puissance qui n'est rien, lui fait-il comprendre, à côté de celle du soleil. Et si Alexandre envie Diogène, c'est qu'en quelques mots, il lui a peut-être plus appris qu'Aristote en de longues années. Et je trouvais savoureux, un jour de club de lecture, de vous citer une phrase de quelqu'un qui a si peu écrit, ou dont aucun écrit n'a survécu à l'histoire.
Ça ferait un bon biopic, hein, Diogène, Guillemette Odissino.
Oh, absolument.
Extraordinaire.
Après, il faut réfléchir à quel acteur on a envie de voir à poil. Mais...
ouais, bah, il n'est pas à poil.
On n'a pas envie de le voir à poil.
Il n'est pas à poil, Guillemette.
Il y a des trous, il a dit.
Calmez-vous, Guillemette. Toutes les punchlines philo sont à podcaster sur l'appli Radio France. Merci beaucoup, Olivier Pourriol. Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse. Merci, Yolaine de Chanot, rédactrice en chef au Parisien Week-end. À la une, ce vendredi.
L'acteur chouchou du moment, Bastien Bouillon. Et puis, on vous liste un peu tous les temps forts de l'année 2026, que ce soit en culture, en loisirs, en sport. Et bien sûr, notre hommage à Bébé, ouais. Bébé qui créa Saint-Tropez.
Merci, Christine Lapelle-Edouel. Et merci, Sylvain Gédrézac, de la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux, sur la ligne C du RER. Merci à Cyrine Ben-Younès pour la programmation de cette émission avec la collaboration de Noé Brabant. Merci à Étienne Quenel pour la réalisation, à Valentine Chedebois pour la programmation musicale, à la technique ce matin, Sofiane Aktib. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans Bel et Bien, en compagnie d'Agathe Le Caron. Et lundi, entre 10h et 11h, pourquoi est-il si difficile de perdre du poids après 40-50 ans ? Et vous, racontez-nous comment ça se passe pour vous.
Je peux venir.
Si vous voulez, Guillemette. Et ça sera donc dès lundi à 10h.